Chapitre 13. L'Espagnol. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. La Fontaine. Cependant, une scène d'une autre nature se passait sous la tente de Saint-Marc. Les paroles du roi, premier baume de ses blessures, avait été suivi des soins empressés des chirurgiens de la cour. Une balle morte, facilement extraite, avait causé seule son accident. Le voyage lui était permis, tout était prêt pour l'accomplir. Le malade avait reçu jusqu'à minuit des visites amicales et intéressées. Dans les premières furent celles du petit Gondy et de Fontrailles, qui se disposaient aussi à quitter Perpignan pour Paris. L'ancien page, Olivier d'Entraigues, s'était joint à eux pour complimenter l'heureux volontaire que le roi semblait avoir distingué. La froideur habituelle du prince envers tout ce qui l'entourait, ayant fait regarder à tous ceux qui en furent instruits, le peu de mots qu'il avait dit comme des signes assurés d'une haute faveur, tous étaient venus le féliciter. Enfin, il était seul sur son lit de camp. Monsieur de Toux, près de lui, tenait sa main et Grandchamp, à ses pieds, grondait encore de toutes les visites qui avaient fatigué son maître blessé et prêt à partir pour un long voyage. Pour Saint-Marc, il goûtait enfin un de ces instants de calme et d'espoir qui viennent en quelque sorte rafraîchir l'âme en même temps que le sang. La main qu'il ne donnait pas à son ami pressait en secret la croix d'or attachée sur son cœur, en attendant la main adorée qu'il avait donnée et qu'il allait bientôt presser elle-même. Il n'écoutait qu'avec le regard et le sourire les conseils du jeune magistrat et rêvait au but de son voyage, qui était aussi le but de sa vie. Le grave de tout lui disait d'une voix calme et douce. « Je vous suivrai bientôt à Paris. Je suis heureux plus que vous-même de voir le roi vous y mener avec lui. C'est un commencement d'amitié qu'il faut ménager, vous avez raison. J'ai réfléchi bien profondément aux causes secrètes de votre ambition et je crois avoir deviné votre cœur. Oui, ce sentiment d'amour pour la France qui le faisait battre dans votre première jeunesse a dû y prendre des forces plus grandes. Vous voulez approcher le roi pour servir votre pays, pour mettre en action ces songes dorés de nos premiers ans. Certes, la pensée est vaste et digne de vous. Je vous admire, je m'incline. Abordez le monarque avec le dévouement chevaleresque de nos pères, avec un cœur plein de candeur et prêt à tous les sacrifices. Recevoir les confidences de son âme, verser dans la sienne celles de ses sujets, adoucir les chagrins du roi en lui apprenant la confiance de son peuple en lui, fermer les plaies du peuple en les découvrant à son maître et, par l'entremise de votre faveur, rétablir ainsi ce commerce d'amour du père aux enfants qui fut interrompu pendant 18 ans par un homme au cœur de marbre, s'exposer pour cette noble entreprise à toutes les horreurs de sa vengeance et bien plus encore, braver les calomnies perfides qui poursuivent le favori jusque sur les marches du trône. Ce songe était digne de vous. Poursuivez, mon ami, ne soyez jamais découragé. Parlez hautement au roi du mérite et des malheurs de ses plus illustres amis que l'on écrase. Dites-lui sans crainte que sa vieille noblesse n'a jamais conspiré contre lui, et que, depuis le jeune Montmorency jusqu'à cet aimable comte de Soissons, tous avaient combattu le ministre et jamais le monarque. Dites-lui que les vieilles races de France sont nées avec sa race, qu'en les frappant, il remue toute la nation, et que, s'il les éteint, la sienne en souffrira, qu'elle demeurera seule exposée au souffle du temps et des événements, comme un vieux chêne frissonne et s'ébranle au vent de la plaine lorsqu'on a renversé la forêt qui l'entoure et le soutient. « Oui !» s'écria de tout en s'animant, Ce but est noble et beau. Marchez dans votre route d'un pas inébranlable, chassez même cette honte secrète, cette pudeur qu'une âme noble éprouve avant de se décider à flatter, à faire ce que le monde appelle sa cour. Hélas, les rois sont accoutumés à ces paroles continuelles de fausse admiration pour eux. Considérez-les comme une langue nouvelle qu'il faut apprendre, langue bien étrangère à vos lèvres jusqu'ici, mais que l'on peut parler noblement, croyez-moi, et qui saurait exprimer de belles et généreuses pensées. » Pendant le discours enflammé de son ami, Saint-Marc ne put se défendre d'une rougeur subite, et il tourna son visage sur l'oreiller, du côté de la tente, et de manière à ne pas être vu. De tout s'arrêta. « Qu'avez-vous, Henri ? Vous ne me répondez pas ? Me serais-je trompé ?» Saint-Marc soupira profondément et se tut encore. « Votre cœur n'est-il pas ému de ces idées que je croyais devoir le transporter ?» Le blessé regarda son ami avec moins de trouble et lui dit « Je croyais, cher de tout, que vous ne deviez plus m'interroger et que vous vouliez avoir une aveugle confiance en moi. Quel mauvais génie vous pousse donc à vouloir sonder ainsi mon âme ? Je ne suis pas étrangère à ces idées qui vous possèdent. Qui vous dit que je ne les ai pas conçues ? Qui vous dit que je n'ai pas formé la ferme résolution de les pousser plus loin dans l'action que vous n'osez le faire même dans les paroles ? L'amour de la France, la haine vertueuse de l'ambitieux qui l'opprime et brise ses antiques mœurs avec la hache du bourreau, la ferme croyance que la vertu peut être aussi habile que le crime, voilà mes dieux, les mêmes que les vôtres. Mais quand vous voyez un homme à genoux dans une église, lui demandez-vous quel saint ou quel ange protège et reçoit sa prière ? Que vous importe, pourvu qu'il prie au pied des autels que vous adorez, pourvu qu'il y tombe martyr s'il le faut ? Et lorsque nos pères s'acheminaient pieds nus vers le Saint-Sépulcre, un bourdon à la main, s'informait-on du vœu secret qui les conduisait à la Terre Sainte ? Ils frappaient, ils mouraient, et les hommes, et Dieu même peut-être, n'en demandaient pas plus. Le pieux capitaine qui les guidait ne faisait point dépouiller leur corps pour voir si la croix rouge et le cilice ne cachaient pas quelque autre signe mystérieux. Et dans le ciel, sans doute, ils n'étaient pas jugés avec plus de rigueur pour avoir aidé la force de leur résolution sur la terre par quelque espoir permis aux chrétiens, quelques secondes et secrètes pensées, plus humaines et plus proches du cœur mortel. De tout sourit et rougit légèrement en baissant les yeux. « Mon ami, reprit-il avec gravité, cette agitation peut vous faire du mal. Ne continuons pas sur ce sujet. Ne mêlons pas Dieu et le ciel dans nos discours, parce que cela n'est pas bien. Et mettez vos draps sur votre épaule, parce qu'il fait froid cette nuit. Je vous promets, ajouta-t-il en recouvrant son jeune malade avec un soin maternel, je vous promets de ne plus vous mettre en colère par mes conseils. Ah ! S'écria Saint-Marc, malgré la défense de parler. Moi, je vous jure, par cette croix d'or que vous voyez, et par Sainte Marie, de mourir plutôt que de renoncer à ce plan même que vous avez tracé le premier. Vous serez peut-être un jour forcé de me prier de m'arrêter, mais il ne sera plus temps. C'est bon, dormez, répéta le conseiller. Si vous ne vous arrêtez pas, alors je continuerai avec vous, quelque part que cela me conduise. » Et prenant dans sa poche un livre d'heures, il se mit à le lire attentivement. Un instant après, il regarda Saint-Marc qui ne dormait pas encore. Il fit signe à Grandchamp de changer la lampe de place pour la vue du malade. Mais ce soin nouveau ne réussit pas mieux. Celui-ci, les yeux toujours ouverts, s'agitait sur sa couche étroite. « Allons !» « Vous n'êtes pas calme, » dit De Thou en souriant. « Je vais faire quelques lectures pieuses qui vous remettent l'esprit en repos. » Ah, mon ami, c'est là qu'il est le repos véritable. C'est dans ce livre consolateur. Car ouvrez-le où vous voudrez, et toujours vous y verrez, d'un côté l'homme, dans le seul état qui convienne à sa faiblesse, la prière et l'incertitude de sa destinée, et de l'autre, Dieu lui parlant lui-même de ses infirmités. Quel magnifique et céleste spectacle! Quel lien sublime entre le ciel et la terre! La vie, la mort et l'éternité sont là. Ouvrez-le au hasard. Ah oui, dit Saint-Marc, se levant encore avec une vivacité qui avait quelque chose d'enfantin. Je le veux bien, laissez-moi l'ouvrir. Vous savez la vieille superstition de notre pays? Quand on ouvre un livre de messe avec une épée, la première page que l'on trouve à gauche est la destinée de celui qui la lit, et le premier qui entre, quand il a fini, doit influer puissamment sur l'avenir du lecteur. Quel enfantillage! Mais je le veux bien. Voici votre épée. Prenez la pointe. Voyons. Laissez-moi lire moi-même, dit Saint-Marc, prenant du bord de son lit un côté du livre. Le vieux Grandchamp avança gravement sa figure basanée et ses cheveux gris sur le pied du lit pour écouter. Son maître lut, s'interrompit à la première phrase, mais, avec un sourire un peu forcé peut-être, poursuivit jusqu'au bout. 1. Or, c'était dans la cité de Mediolanum qu'ils comparurent. 2. Le grand prêtre leur dit « Inclinez-vous et adorez les dieux. » 3. Et le peuple était silencieux, regardant leurs visages, qui parurent comme les visages des anges. 4. Mais Gervais, prenant la main de Protée, s'écria, levant les yeux au ciel et tout rempli du Saint-Esprit. 5. Ô mon frère, je vois le Fils de l'homme qui nous sourit. Laisse-moi mourir le premier. 6. Car si je voyais ton sang, je craindrais de verser des larmes indignes du Seigneur notre Dieu. 7. Or, Protée lui répondit par ces paroles. 8. Mon frère, il est juste que je périsse après toi, car j'ai plus d'années et des forces plus grandes pour te voir souffrir. 9. Mais les sénateurs et le peuple grinçaient des dents contre eux. 10. Et les soldats les ayant frappés, leurs têtes tombèrent ensemble sur la même pierre. 11. Or, c'est en ce lieu même que le bienheureux saint Ambroise trouva la cendre des deux martyrs qui rendit la vue à un aveugle. « Eh bien, dit Saint-Marc en regardant son ami lorsqu'il eut fini, que répondez-vous à cela ?»« La volonté de Dieu soit faite, mais nous ne devons pas la sonder. » Ni reculer dans nos desseins pour un jeu d'enfant, reprit Défiat avec impatience et s'enveloppant d'un manteau jeté sur lui. « Souvenez-vous des vers que nous récitions autrefois ?»« Justam et tenacem proposili virum. » Ces mots de fer se sont imprimés dans ma tête. « Oui, que l'univers s'écroule autour de moi, ces débris m'emporteront inébranlables. » Ne comparons pas les pensées de l'homme à celles du ciel et soumettons-nous, dit De Thou. Amen, dit le vieux Grandchamp, dont les yeux s'étaient remplis de larmes qu'il essuyait brusquement. De quoi te mêles-tu, vieux soldat? Tu pleures? Lui dit son maître. Amen, dit à la porte de la tente une voix nasillarde. Parbleu, monsieur, faites plutôt cette question à l'éminence grise qui vient chez vous, répondit le fidèle serviteur en montrant Joseph qui s'avançait les bras croisés en saluant d'un air caressant. Ah, ce sera donc lui, murmura Saint-Marc. Je viens peut-être mal à propos, dit Joseph doucement. Fort à propos, peut-être, dit Henri Défiat en souriant avec un regard à De Thou. Qui peut vous amener, mon père, à 1 heure du matin? Ce doit être quelque bonne œuvre. Joseph se vit mal accueilli. et comme il ne marchait jamais sans avoir au fond de l'âme 5 ou 6 reproches à se faire vis-à-vis des gens qu'il abordait, et autant de ressources dans l'esprit pour se tirer d'affaire, il crut ici que l'on avait découvert le but de sa visite, et sentit que ce n'était pas le moment de la mauvaise humeur qu'il fallait prendre pour préparer l'amitié. S'asseyant donc assez froidement près du lit, « Je viens, dit-il, monsieur, vous parler de la part du cardinal généralissime des 2 prisonniers espagnols que vous avez faits. Il désire avoir des renseignements sur eux le plus promptement possible. Je dois les voir et les interroger. Mais je ne comptais pas vous trouver veillant encore. Je voulais seulement les recevoir de vos gens. » Après un échange de politesse contrainte, on fit entrer dans la tente les 2 prisonniers que Saint-Mars avait presque oubliés. Ils parurent, l'un jeune et montrant à découvert une physionomie vive et un peu sauvage. C'était le soldat. L'autre, cachant sa taille sous un manteau brun et ses traits sombres mais ambigus dans leur expression, sous l'ombre de son chapeau à large bord qu'il n'ôta pas. C'était l'officier. Il parla seul et le premier. « Pourquoi me faites-vous quitter ma paille et mon sommeil? Est-ce pour me délivrer ou me pendre ?»«
Ni l'un ni l'autre, dit Joseph.
« Qu'ai-je à faire avec toi, homme à longue barbe? Je ne t'ai pas vu à la brèche. »
Il fallut quelque temps, d'après cet exorde aimable, pour faire comprendre à l'étranger les droits qu'avait un capucin à l'interroger.
« Eh bien, dit-il enfin, que me veux-tu ?
Je veux savoir votre nom et votre pays. »
« Je ne dis pas mon nom, et quant à mon pays, j'ai l'air d'un Espagnol, mais je ne le suis peut-être pas, car un Espagnol ne l'est jamais. »
Le père Joseph, se retournant vers les 2 amis, dit
« Je suis bien trompé, ou j'ai entendu ce son de voix quelque part. Cet homme parle français sans accent, mais il me semble qu'il veut nous donner des énigmes comme dans l'Orient.
L'Orient, c'est cela, dit le prisonnier. Un Espagnol est un homme de l'Orient, c'est un Turc catholique. Son sang languit ou bouillonne. Il est paresseux ou infatigable. L'indolence le rend esclave, l'ardeur cruelle. Immobile dans son ignorance, ingénieux dans sa superstition, il ne veut qu'un livre religieux, qu'un maître tyrannique. Il obéit à la loi du bûcher, il commande par celle du poignard, il s'endort le soir dans sa misère sanglante, cuvant le fanatisme et rêvant de crimes. Qui est-ce là, messieurs? Est-ce l'Espagnol ou le Turc? Devinez. Ha ha! Vous avez l'air de trouver que j'ai de l'esprit parce que je rencontre un rapport. Vraiment, messieurs, vous me faites bien de l'honneur. Et cependant, l'idée pourrait se pousser plus loin si l'on voulait. Si je passais à l'ordre physique, par exemple, ne pourrais-je pas vous dire « Cet homme a les traits graves ou allongés, l'œil noir est coupé en amande, les sourcils durs, la bouche triste et mobile, les joues basanées, maigres et ridées, sa tête est rasée et il la couvre d'un mouchoir noué en turban. Il passe un jour entier couché ou debout, sous un soleil brûlant, sans mouvement, sans parole, fumant un tabac qui l'enivre. Est-ce un Turc ou un Espagnol? Êtes-vous contents, messieurs? Vraiment, vous en avez l'air, vous riez. Et de quoi riez-vous? Moi qui vous ai présenté cette seule idée, je n'ai pas ri. Voyez, mon visage est triste. Ah, c'est peut-être parce que le sombre prisonnier est devenu tout à coup bavard et parle vite? Ah, ce n'est rien. Je pourrais vous en dire d'autres et vous rendre quelques services, mes braves amis. Si je me mettais dans les anecdotes, par exemple, si je vous disais que je connais un prêtre qui avait ordonné la mort de quelques hérétiques avant de dire la messe et qui, furieux d'être interrompu à l'autel durant le saint sacrifice, cria à ceux qui lui demandaient ses ordres « Tuez tout! Tuez tout !» Ririez-vous bien tous, messieurs? Non, pas tous. Monsieur que voilà, par exemple, mordrait sa lèvre et sa barbe. Oh, il est vrai qu'il pourrait répondre qu'il a fait sagement et qu'on avait tort d'interrompre sa pure prière. Mais si j'ajoutais qu'il s'est caché pendant une heure derrière la toile de votre tante, monsieur de Saint-Marc, pour vous écouter parler, et qu'il est venu pour vous faire quelque perfidie et non pour moi, que dirait-il ? Maintenant, messieurs, êtes-vous contents ? Puis-je me retirer après cette parade ? Le prisonnier avait débité tout ceci avec la rapidité d'un vendeur d'Orvietan et avec une voix si haute que Joseph en fut tout étourdi. Il se leva indigné à la fin et s'adressant à Saint-Marc. « Comment souffrez-vous, monsieur, lui dit-il, qu'un prisonnier qui devait être pendu vous parle ainsi ?» L'Espagnol, sans daigner s'occuper de lui davantage, se pencha vers Défiat et lui dit à l'oreille « Je ne vous importe guère, donnez-moi ma liberté. J'ai déjà pu la prendre, mais je ne l'ai pas voulu sans votre consentement. Donnez-la-moi ou faites-moi tuer. » « Partez si vous le pouvez, lui répondit Saint-Marc, je vous jure que j'en serai fort aise. » Et il fit dire à ses gens de se retirer avec le soldat qu'il voulut garder à son service. Ce fut l'affaire d'un moment. Il ne restait plus dans la tente que les deux amis, le père Joseph décontenancé et l'Espagnol, lorsque celui-ci, ôtant son chapeau, montra une figure française mais féroce. Il riait et semblait respirer plus d'air dans sa large poitrine. « Oui, je suis français, dit-il à Joseph, mais je hais la France parce qu'elle a donné le jour à mon père, qui est un monstre, et à moi qui le suis devenu et qui l'ai frappé une fois. Je hais ses habitants parce qu'ils m'ont volé toute ma fortune au jeu et que je les ai volés et tués depuis. J'ai été 2 ans espagnol pour faire mourir plus de Français. Mais, à présent, je hais encore plus l'Espagne. On ne saura jamais pourquoi. Adieu, je vais vivre sans nation désormais. Tous les hommes sont mes ennemis. Continue, Joseph, et tu me vaudras bientôt. Oui, tu m'as vu autrefois, continua-t-il en le poussant violemment par la poitrine et le renversant. Je suis Jacques de Laubardemont, « fils de ton digne ami !» À ces mots, sortant brusquement de la tente, il disparut comme une apparition s'évanouirait. De tout et ses laquais, accourus à l'entrée, le virent s'élancer en 2 bonds par-dessus un soldat surpris et désarmé et courir vers les montagnes avec la vitesse d'un cerf, malgré plusieurs coups de mousquets inutiles. Joseph profita du désordre pour s'évader en balbutiant quelques mots de politesse et laissa les 2 amis riant de son aventure et de son désappointement, comme 2 écoliers riraient d'avoir vu tomber les lunettes de leur pédagogue et s'apprêtant enfin à chercher un sommeil dont ils avaient besoin l'un et l'autre et qu'ils trouvèrent bientôt, le blessé dans son lit et le jeune conseiller dans son fauteuil. Pour le Capucin, il s'acheminait vers sa tente, méditant comment il tirerait parti de tout ceci pour la meilleure vengeance possible, lorsqu'il rencontra Laubardemont traînant par ses mains liées la jeune insensée. Ils se racontèrent leurs mutuelles et horribles aventures. Joseph n'eut pas peu de plaisir à retourner le poignard dans la plaie de son cœur en lui apprenant le sort de son fils. « Vous n'êtes pas précisément heureux dans votre intérieur, » ajouta-t-il. « Je vous conseille de faire enfermer votre nièce et pendre votre héritier, si par bonheur vous le retrouvez. » Laubardemont rit affreusement. « Quant à cette petite imbécile que voilà, je vais la donner à un ancien juge secret, à présent contrebandier dans les Pyrénées, à Oloron. Il la fera ce qu'il voudra. Servante dans sa posada, par exemple. » « Je m'en soucie peu, pourvu que Monseigneur ne puisse jamais en entendre parler. » Jeanne de Belfiel, la tête baissée, ne donna aucun signe d'intelligence. Toute lueur de raison était éteinte en elle. Un seul mot lui était resté sur les lèvres, elle le prononçait continuellement. « Le juge ! Le juge ! Le juge ! » dit-elle tout bas. Et elle se tut. Son oncle et Joseph la chargèrent, à peu près comme un sac de blé, sur un des chevaux qu'amenèrent deux domestiques. Laubardemont en monta un et se disposa à sortir du camp, voulant s'enfoncer dans les montagnes avant le jour. « Bon voyage, dit-il à Joseph, faites bien vos affaires à Paris. Je vous recommande Oreste et Pylade. » « Bon voyage, répondit celui-ci, je vous recommande Cassandre et Édipe. » « Oh, il n'a ni tué son père, ni épousé sa mère. » « Mais il est en bon chemin pour ses gentillesses. » « Adieu, mon révérend père. » « Adieu, mon vénérable ami, » dirent-il tout haut. Mais tout bas. « Adieu, assassin à robe grise, je retrouverai l'oreille du cardinal en ton absence. » « Adieu, scélérat à robe rouge, va détruire toi-même ta famille maudite. Achève de répandre ton sang dans les autres. Ce qui en restera en toi, je m'en charge. Je pars à présent. Voilà une nuit bien remplie. »